Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Panorama jusqu'à 19h sur Europe 1, vous avez l'habitude, c'est notre programme du week-end le soir, consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle dont on dit qu'elle n'est pas au point. Comme le quantique d'ailleurs, malgré les promesses extraordinaires qui sont sur la table, les médecins sans doute sont les premiers à dire, et ce depuis des années, attendez, nous l'IA, on en a besoin, les progrès sont énormes, et pourquoi donc se priver d'une telle innovation pour sauver des vies, puisque c'est ça quand même le but de nos amis les médecins. C'est ce qu'on va voir à la fois du côté de la recherche, mais aussi du côté de l'aide aux patients avec mes invités. Bonsoir Alexandre Loupy.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de néphrologie et d'épidémiologie à Necker, à Paris. Vous êtes directeur aussi de l'équipe de recherche en transplantation d'organes, l'Institut de transplantation de Paris, qui a reçu le prix INSERM Innovation. Et Charles Gorantin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur et cofondateur d'Alan, qui est cette licorne française dont on est très fiers, parce qu'on est toujours très très fiers des licornes. Voilà, et vous allez nous parler également de cette entreprise, comment elle a gravi les étapes, licorne dans l'assurance santé. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir Capucine.
Bonsoir Pierre.
Revenons avec vous sur ce que suscite actuellement l'IA, l'intelligence artificielle dans la société, et c'est la peur donc qui prédomine.
Oui, et pourtant il faut le rappeler, l'intelligence artificielle ce n'est pas une technologie, mais un domaine scientifique qui développe des outils, et le Parlement européen de définir l'IA comme tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, selon plusieurs instituts de sondage qui se sont posé la question, Odoxa en avril 2023, l'IFOP en décembre, Ipsos le mois dernier, 67% des Français voient l'intelligence artificielle comme une menace. Plus précisément, 7 Français sur 10 la considèrent comme une menace pour l'emploi. De même, les Français sont près de 70% à estimer que l'IA remet en cause la véracité de l'information. Français qui sont plus de 8 sur 10 à penser qu'il faudrait que les États réglementent l'exploitation de ces outils. Mais là encore, plus pessimiste, 64% d'entre eux estiment que les États n'auraient pas la capacité de le faire. Un dernier chiffre optimiste, celui-ci, 55% des Français interrogés estiment que l'intelligence artificielle présente un intérêt pour la santé.
55%, moi j'aurais 55%. Dit 80 ou 85 ou 90, c'est décevant non Alexandre Loupy, 55% des Français qui pensent que c'est utile pour la santé.
Alors c'est un peu décevant, mais je dirais que c'est la marche normale vers toute innovation de rupture. Hein. Si on se projette dans l'histoire, l'automobile ne faisait pas l'unanimité et des gens préféraient prendre leur cheval. J'en ai pas vu beaucoup sur le périph de chevaux. Et donc, je pense que dans toute rupture, il y a des adopteurs initiaux. Il y a également parfois de la désillusion avant d'arriver à un plateau de productivité. Donc c'est nous en tant que médecins, chercheurs ou entrepreneurs, évidemment tout le travail pour éduquer les gens et leur faire comprendre le bénéfice.
Charles Gorantin, sur cette statistique, 55% seulement, j'allais dire.
C'est à mon avis très sous-estimé l'impact que va avoir l'IA dans nos vies. En fait, c'est aujourd'hui ça va avoir un impact sur la santé, sur l'éducation, sur tous les domaines de notre vie. Et comme l'a dit Alexandre Loupy, on a vu dans l'histoire en fait énormément de cas où la rupture technologique à court terme peut faire peur, mais derrière on a des bénéfices à long terme exceptionnels. Et on le voit aujourd'hui dans la médecine.
Ouais, petite incise, vous parliez des débuts de l'automobile. Il faut absolument que tous, chers auditeurs, vous relisiez le début du roman de Barrico, d'Alessandro Barrico, cette histoire-là qui raconte cette course automobile en 1903 où la voiture fait peur parce qu'elle dévale comme ça dans les campagnes. On pense que c'est des monstres de feu et d'acier qui dévalent. C'est très romantique et surtout c'est très très bien renseigné. Je reviens à notre sujet parce que la littérature, mais il faut en parler. C'est aussi le week-end. Il faut lire des livres. Il faut lire des livres. Revenons à notre sujet, Alexandre Loupy. Vous me disiez, ChatGPT, en ce moment, pour moi, dans mon domaine de recherche, c'est pas possible. Je peux pas utiliser ChatGPT parce que ça serait d'aucune utilité.
Oui, alors, dans l'IA et dans la médecine, on parle de contexte d'usage. Et moi, dans mon quotidien, ce qu'on essaie de développer dans notre laboratoire, c'est essayer d'obtenir des outils de prédiction d'aide au diagnostic dans des pathologies très complexes comme la transplantation. Donc aujourd'hui, ChatGPT, qui fait beaucoup de choses, n'a pas été calibré et n'a pas été designé, en fait.
Est-ce que c'est un généraliste ?
Il répond à énormément de questions, mais pour répondre à des questions spécifiques, vous devez construire, vous devez vous poser les bonnes questions et construire autour de la donnée. Et certainement, ChatGPT un jour pourra venir se brancher sur ces canaux-là et apporter de l'aide et de l'accélération dans l'innovation autour de cette santé-là. Mmh. Mais dans la médecine de précision, aujourd'hui, ce qu'on a vu comme performance ne répond pas aux standards d'outils validés.
C'est la raison pour laquelle vous avez créé, en l'occurrence, un outil compagnon qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à une Alexa ou à un ChatGPT. Simplement, c'est complètement différent. Pour dans votre domaine qui est celui de la transplantation.
Alors oui, en fait, en tant que médecin, vous savez, de tout temps, les médecins, puisqu'on parlait d'histoire, ont essayé de compenser l'inadéquation de nos sens. Voilà, on n'entend pas bien, on n'a pas une bonne ouïe, ben on a inventé le stéthoscope pour bien entendre. Et aujourd'hui, le problème, ce sont nos facultés cérébrales. Et donc, je dirais que maintenant, c'est le cognoscope qu'il faut qu'on découvre. C'est-à-dire que, en tant que médecin aujourd'hui, on est noyé dans une manne d'informations, des tests génétiques, des biomarqueurs, etc. Et on a bien du mal à en faire la synthèse. Et donc, c'est là où nous, on vient aider, et surtout dans des spécialités comme la transplantation complexe. C'est des outils comme un oracle, en fait, de prédictions qui vont permettre aux médecins d'avoir accès à des prédictions à long terme, de trajectoires de patients, de réponses à des traitements spécifiques, de diagnostic du rejet, diagnostic de précision. C'est ça qu'on déploie aujourd'hui, donc cette innovation, cette recherche, cette innovation française, et qui, avec l'association avec des entrepreneurs français, est aujourd'hui distribuée aux patients greffés du rein en France et dans le monde.
Et alors, comment est-ce que, quel est le process, à quel moment on se dit, on se méfie quand même de l'IA qui peut nous jouer des tours, ou est-ce qu'on se dit, on contourne cette crainte, cette inquiétude, cette peur, et on fonce, on y va parce qu'on est sûr d'avoir un outil qui fonctionnera.
Alors d'abord, quand on crée un algorithme de prédiction, il faut montrer qu'il est validé, il faut montrer qu'il est généralisable à l'ensemble de la population, des populations. Donc ça demande un énorme travail de collection de données.
Et de temps, de qualité. Des années de travail, ça.
Et de temps, et c'est des années de travail, et c'est là où on peut saluer aussi notre système français, puisqu'on parle de la France, puisque j'ai bénéficié de mon laboratoire de financement public avec des tutelles, des institutions qui quand même nous poussent et nous aident en France. Ça doit être salué, de même que sur l'entrepreneuriat, évidemment les ministères qui aident beaucoup sur l'IA et la e-santé et tout ce qui est dispositifs médicaux numériques innovants. Mmh. Donc c'est ça qu'on développe, et c'est ça aujourd'hui qu'on teste en vie réelle, justement pour augmenter l'adoption des médecins, c'est-à-dire qu'ils aient confiance. Et pour avoir confiance, il faut que ce soit transparent, il faut que ça ait été validé, il faut que ce soit facile d'utilisation, et il faut pas que ce soit une boîte noire comme ça, qu'on ne comprend pas. Il faut surtout, dernier point, que l'outil ait montré la preuve de son utilité pour les patients. Puisque si vous n'avez pas cette démonstration implacable, et aujourd'hui, il y a des démonstrations dans certains pans de la médecine, notamment la radiologie, l'imagerie, mais dans les maladies chroniques complexes multidimensionnelles, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. Charles Gorantin, vous entendez le récit d'Alexandre Loupy dans le domaine de la recherche, vous dans le domaine de l'aide aux patients, de la santé pour tout le monde, comment est-ce que vous avez justement recours à l'IA ?
Alors déjà, le mot IA, c'est un petit peu un mot fourre-tout. Il y a plusieurs sortes d'IA. Il y a d'une part les IA qu'on disait discriminatives, et je pense qu'ils sont beaucoup utilisés dans la recherche, dans ce que fait Alexandre Loupy. Et donc, ce qui était le cas jusqu'à à peu près 2021, où tout le monde utilisait ces IA discriminatives, et maintenant il y a l'IA générative, donc celle qui prédit et qui crée du texte, comme on peut voir avec ChatGPT, avec Mistral. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces outils-là d'IA générative, en fait, sont très utiles pour faire des choses comme de la synthèse de texte. Donc, en recherche, j'imagine justement que c'est l'utilisation principale, c'est pas de prédire exactement quelle sera la maladie de la personne, mais faire la synthèse de toutes les informations que cette IA peut avoir et qui sont difficiles à avoir dans la tête d'une seule personne. Et de vraiment la réduire à une information que la personne pourra vérifier. Après, l'impact qu'il y aura sur les personnes, on voit que aujourd'hui on a des déserts médicaux, on a des médecins qui sont fatigués, on a des médecins qui sont trop sollicités pour le nombre qui sont en France. Et en fait, l'IA peut leur permettre de regagner du temps, typiquement sur les outils, sur les choses administratives. Donc vous faire passer le même questionnaire à chaque fois que vous voyez un nouveau médecin quand vous allez à l'hôpital ou dans une clinique ou je ne sais où, ça ne fait pas avancer la médecine. Si on peut avoir des outils qui font la synthèse orale de ce que vous avez dit à votre médecin, vous fait un résumé et derrière, vous le recevez directement sur votre téléphone, vous êtes beaucoup plus content.
Mmh. Donc vous avez une sorte de passeport, j'allais dire, médical qui vous suit
exactement,
et qui vous permet de plus répondre 400 fois aux mêmes questionnaires qui parfois sont posés d'ailleurs dans la même clinique ou dans le même lieu de santé.
Et ça c'est
à un quart d'heure d'écart.
Oui. C'est fait par l'État, il y a mon espace santé qui est établi par l'État pour avoir ces données de manière privée dans votre espace personnel, mais derrière l'IA va pouvoir utiliser et enrichir ces données typiquement en transcrivant cette
Et vous, alors discussion. Du coup, chez Alan, vous apportez une solution.
Et donc, chez Alan, nous, on est à la fois une assurance santé, donc on couvre 500 000 personnes en France, en Espagne, en Belgique, mais surtout, on offre une clinique virtuelle avec des médecins et on leur fournit des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir, derrière, élargir leur champ de compétences, parce qu'un médecin, ça peut pas forcément suivre toute la recherche qui a été publiée dans les 5 dernières années. S'ils ont accès à une IA qui leur permet de simplifier cet accès à la recherche, si derrière on peut utiliser potentiellement l'IA pour faire de l'orientation, pour vous répondre, j'ai mal au genou.
Justement, j'allais vous demander un cas concret, parce que une clinique virtuelle, il faut que vous m'expliquiez comment ça fonctionne.
Donc clinique virtuelle, très simple. J'ai un problème, j'ai mal au genou. Je peux écrire par chat à un médecin qui va me répondre dans la demi-heure et me dire bon ben voilà ce que vous pouvez faire.
C'est un système global de visioconsultation d'une certaine manière.
Il n'y a pas besoin de visio. On peut commencer par du chat.
Juste par un chat, d'accord. Ok.
Et aujourd'hui, c'est des médecins, donc ça prend une demi-heure. Mais imaginez que vous puissiez avoir une réponse immédiate d'une IA qui vous dit, qui vous pose les questions qu'il faut pour qualifier votre douleur, si c'est une douleur aiguë, une douleur lancinante, etc. Et derrière,
il faut pas se planter quand on vous demande c'est de 0 à 10, vous avez mal à combien quoi.
Mais justement, ouais. En fait, ça permet de créer ces informations et derrière un médecin peut arriver et vous dire. Bon ben voilà, l'IA vous a dit il faut peut-être aller aux urgences ou vous pouvez attendre jusqu'à demain.
Derrière.
Exactement. Et en fait, apporter cette aide aux médecins va complètement changer la médecine, à mon avis.
C'est ça aussi l'avenir de la médecine, Alexandre Lecuy ?
Oui, tout à fait. Nous, par exemple, concrètement, ce qu'on développe, et moi, ça fait 20 ans que je fais de la médecine. J'ai vu un certain nombre de patients. J'ai mes propres connaissances, mes biais, des examens que j'ai réussi ou raté, d'ailleurs. Donc, ça fait partie, je dirais,
sur ces échecs.
Aujourd'hui, des possibles biais qu'a tout médecin, à commencer par moi, quand je suis les patients. On fait de notre mieux, on se lève le matin pour les patients. D'un autre côté, aujourd'hui, on a une machine qui a été nourrie de données, qui a 500 000 ans d'expérience de gestion de patients, qui présente des dysfonctions d'organes. Cette machine la capacité, quand vous lui posez des questions avec des algorithmes basés sur l'IA, de vous projeter les patients à 10 ans, leur risque de rejet, les diagnostics. Et donc, on les déploie concrètement aujourd'hui par l'intermédiaire d'une start-up qui s'appelle Predict4Health, c'est-à-dire que on donne à des médecins des logiciels qui encapsulent cette machine qui a 500 000 ans d'expérience pour lui donner au quotidien des recommandations. Mmh. Alors, c'est pas un oracle, j'aime bien les références historiques, on n'est pas à l'Antiquité, mais on fait quand même, la machine donne quand même des prédictions. Mmh. Et nous, on montre que ces prédictions sont meilleures que celles que moi je peux faire. Pourquoi ? Parce que cette machine-là est infaillible et qu'elle encapsule l'intégralité de scénarios possibles qui ont été vus et revus, et donc vous créez vraiment des jumeaux numériques de vos patients. Et ce qu'on montre très concrètement chez les patients chez qui on déploie ça, c'est que les médecins prennent de meilleures décisions, anticipent les traitements, prolongent la longévité des patients greffés du rein, et dernier point intéressant, on peut complètement accélérer le développement des médicaments pour les patients.
Mais est-ce que ce schéma-là va pouvoir se multiplier et se dupliquer vers plein de spécificités de la médecine?
Exactement. En fait, cette preuve de concept qu'on a pu, nous, avoir la chance d'établir sur cette innovation en transplantation, elle est duplicable, mais sur toutes les spécialités médicales.
Ouais. L'orthopédie, peu importe.
Mais bien sûr, c'est fait déjà. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est vraiment les maladies extrêmement complexes, les dysfonctions cardiaques, hépatiques, pulmonaires et rénales. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a dans des grands essais européens, c'est que le médecin augmenté par la machine fait mieux que le médecin sans la machine. Et ça, c'est indiscutable.
Mmh. Charles Gorintin, quand vous entendez justement cette innovation-là qui pourrait venir non pas supplanter, mais aider les médecins, leur ouvrir les yeux encore plus, ça vous donne envie d'entreprendre encore plus dans ce domaine ?
Exactement. Il y a énormément de choses qu'on peut encore faire en médecine. Je voudrais ajouter aussi sur le fait que l'IA peut paraître parfois plus compétente et même plus empathique que certains médecins. Il y a eu une étude qui a été faite...
Ça, c'est pas difficile. Les médecins, c'est tous des... Hein, on les aime pas.
Yeah. Non, au contraire, on les adore. Et c'est pour ça qu'on veut leur donner les meilleurs outils.
Je sais donc... pour Alexandre Loupi, parce qu'il me regarde bien.
Et donc, justement, en fait, il y a une étude aux États-Unis qu'on a pu répliquer chez Alan, où, en fait, on a essayé de comparer les réponses que donnait un médecin à une question de santé à la réponse qu'apporte une IA du type Mistral ou ChatGPT. Et en fait, la réponse qui était apportée à l'IA était à la fois plus correcte et plus empathique selon l'avis des personnes qui ont vu les deux et ne savaient pas lequel était lequel. Mmh.
Est-ce que c'est un marché, vous qui êtes un entrepreneur, qui est porteur, qui est nouveau, qui va vous attirer énormément de concurrents, qui en attire peut-être déjà, qui va devenir un boom, comme on dit tout simplement.
Alors, je considère pas que la santé est un marché. En fait, derrière, c'est la santé
sûr.
Des personnes.
En tant qu'il y a évidemment des comment dirais-je un aspect déontologique qui interdit de monétiser. Mais vous comprenez bien qu'il y a des acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. Quand
mais
même. Là,
voilà. Et donc des acteurs comme il y a une entreprise qui s'appelle Nabla qui fait un copilote pour les médecins qui leur permet de transcrire les conversations qu'ils ont et faire des résumés et avoir des informations beaucoup plus claires sur leurs patients, c'est génial. Et en fait, si on arrive à avoir beaucoup plus d'entreprises qui vont s'engager sur la santé et sur l'IA et apporter des meilleurs outils à tous ces médecins, à la fin, on se retrouve avec des gens en meilleure santé, des maladies qui vont se soigner mieux.
Alexandre Loupi, vous travaillez à Necker, vous travaillez à Pompidou aussi, vous connaissez bien ces grands pans de l'administration hospitalière française. Comment est-ce que, justement, au niveau exécutif de ces grands ensembles administratifs, on réagit sur l'IA ? Est-ce qu'on est frileux ? On se dit, oula, voilà, ça se passait bien jusqu'à présent. Il y a un côté, je vais dire soviétique, il y a un côté très, très d'inertie quand même de l'étatisation française. On le voit dans les grands ensembles hospitaliers. Est-ce qu'on n'est pas frileux à justement ce genre d'innovation qui peuvent renverser la table, tout simplement ?
Mais moi, je vais prendre le problème de l'autre côté, puisque moi, ce que je constate quand même par mes tutelles, que ce soit l'INSERM, l'Assistance publique,
Hôpitaux
de Paris,
le ministère de la Santé,
et le Secrétariat général à l'investissement, les grands plans d'investissement France 2030, et etc., l'Agence de l'innovation en santé France Biotech, c'est que je trouve, et puisque nous, on se situe vraiment dans ce qui est de la recherche publique, de l'innovation et des partenariats publics-privés, aujourd'hui ça fonctionne très bien, c'est que cet écosystème et ce dispositif en France présentent beaucoup d'avantages, beaucoup de vecteurs d'accélération du déploiement de ces outils novateurs pour les patients, des lignes spécifiques de remboursement de ces outils que d'autres pays en Europe n'ont même pas encore établis. Et voilà, moi je voulais saluer, faire un peu mon cocorico, hein, puisque je suis implanté en France en recherche.
Bah, c'est bien, je pense que vous êtes deux à faire cocorico, donc ça tombe bien.
Mais
je posais la question parce qu'on dit souvent aux États-Unis, on arrive à faire ça aux États-Unis, ça va très vite, ils sont beaucoup plus, beaucoup moins réticents. C'est vrai, c'est pas vrai ?
Alors c'est vrai, nous l'expérience qu'on a par exemple du déploiement de nos outils, il y a beaucoup plus d'adoption aux États-Unis qu'en France. Il y a une accélération.
Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je l'explique en partie par l'adoption des médecins même qui arrivent à s'emparer de ces outils d'innovation. Et deuxièmement, je l'explique par les capacités d'interopérabilité qui sont assez rapides, c'est-à-dire notre capacité de se brancher en fait sur les systèmes d'information des hôpitaux aux États-Unis. Ça fonctionne très très bien et c'est assez rapide. Mais en France, on a des choses quand même assez exceptionnelles.
Charles Gorintin, l'aspect américain ?
Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en fait dans le système de santé américain, mais là-dessus en fait ils arrivent à aller assez vite parce que il y a de l'argent, il y a de l'innovation, il y a des choses qui bougent. En France, beaucoup de ces problématiques en fait sont gérées par la Sécu, ce qui fait que il y a assez peu d'intérêt parmi les acteurs privés pour aller réduire les coûts de la Sécu sur Sur par exemple les grèves, j'imagine que c'est ce que vous avez pu voir. Mais en fait, à la fin, s'il y a pas d'argent, il y a peu d'innovation qui peut se déployer et rentrer à l'échelle. Et à la fin, ceux qui en pâtissent, c'est les patients.
Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur l'intelligence artificielle dans la médecine qui est non seulement nécessaire mais de plus en plus indispensable. Merci beaucoup à vous, Charles Gorintin. Pour ceux qui voudraient avoir des informations, ben on voit sur le site de Alan, A-L-A-N, cette licorne d'assurance santé. Et puis Alexandre Loupy, on suivra, je pense, encore de longues années vos innovations en termes de santé et notamment dans le domaine de la grève. Je vous